Nous sommes ici avec Mme Elodie Cantier, Aristide, représentante du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme en Tunisie. Qu'est-ce qui préoccupe tant le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme sur la détérioration des droits de l'homme et l'évolution de la situation en Tunisie?
Les décisions qui ont été prises le 25 juillet dernier par le président de la République, qui ont abouti notamment au gel du Parlement et puis ensuite à l'adoption d'un décret et de décision par lequel dorénavant le président qui légifère, sont bien sûr une source de préoccupation en termes de fonctionnement institutionnel et de l'état de droit. Donc, dans ce contexte qui a conduit une situation déjà fragile et compliquée en termes de droits de l'homme, au démantèlement, si vous voulez, supplémentaire de paramètres de l'état de droit, bien sûr, les risques de violation des droits de l'homme sont accrus. Et il y a eu un certain nombre de violations qui ont été répertoriées depuis le 25 juillet à travers des actes comme des restrictions de mouvement, des assignations à résidence, des restrictions dans une certaine mesure à la liberté d'expression et à la liberté de manifestation, qui étaient des violations qui s'étaient déjà produites dans le passé depuis la Révolution. On a néanmoins donc vu une fragilisation du secteur de la justice au cours de ces dernières semaines avec des pressions et des attaques ou des dénonciations de plus en plus virulentes de la part du président de la République, donc de l'exécutif, pour ce qui concerne le fonctionnement de la justice, qui effectivement a été déjà répertorié comme un domaine très problématique. Et puis, on a eu ces deux cas très préoccupants qui, sans préjuger en aucune façon des charges qui pourraient peser à leur encontre, ont quand même fait l'objet d'un kidnapping. Dans les faits, c'est des pratiques qu'on n'avait pas vues depuis la Révolution. Des gens ont été emmenés dans des voitures en civil, par des hommes en civil, non clairement identifiés, sans qu'il y ait eu préalablement une procédure judiciaire clairement documentée, répertoriée.
Quand vous parlez de ces deux cas, l'un des cas concerne le député du parti Ennahda, Nourdine Biri, et un deuxième homme qui a été aussi enlevé dans les mêmes conditions. Mais au-delà de toutes ces arrestations qui soulèvent de graves questions concernant les enlèvements, les disparitions forcées et les détentions arbitraires, mais que vous disent les autorités tunisiennes par rapport à ces dossiers?
Le retour que j'ai eu pour l'instant, c'est qu'il devait y avoir des choses dans les dossiers qui justifiaient ces arrestations. On ne conteste pas le fait que s'il y a des charges qui pèsent contre des personnes, qu'elles puissent être arrêtées dans le cadre de procédures judiciaires qui sont dûment documentées et mises en œuvre dans le cadre de la loi et en accord avec les standards internationaux sur le procès équitable. Néanmoins, quelles que soient les charges qui pèsent contre des personnes, il nous apparaît extrêmement problématique que des gens soient de facto enlevés sans que leurs avocats soient informés formellement des charges qui pèsent contre eux, sans qu'eux-mêmes soient informés des charges qui pèsent contre eux et que pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, on ne sait pas où ces personnes sont détenues ou alors qu'elles soient détenues dans des lieux de détention qui ne sont pas reconnus par la loi. Ça, quelles que soient les charges qui éventuellement pèsent contre ces personnes, ce sont des violations très graves.
Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Est-ce que vos équipes ont eu accès à ces deux monsieur?
Nous avons pu avoir accès à ces deux personnes. Nous avons mené ces visites en partenariat avec l'Instance nationale de prévention de la torture. Ça nous paraissait très important qu'un mécanisme national des droits de l'homme soit notre partenaire dans ces visites, dans le cadre de la réalisation du mandat du commissariat de monitoring de la situation des droits de l'homme et des cas individuels. Et donc, effectivement, nous avons pu avoir accès à deux occasions pour l'un et à une occasion pour l'autre. Nous avons pu monitorer de façon indépendante leur situation et notamment leur état de santé.
Outre la libération rapide ou l'inculpation en bonne et due forme de ces deux hommes, le Haut-Commissariat s'inquiète également des actions des forces de sécurité intérieure tunisiennes. Que leur reprochez-vous en fait?
Ce sont des choses que nous avons déjà documentées, répertoriées. Nous en avons discuté depuis longtemps avec les autorités de ce gouvernement et du gouvernement précédent, avec les ministères. Nous avions aussi, nous étions publiquement inquiétés de part de nos préoccupations importantes en juin dernier à travers un communiqué de presse. La question de la réforme du secteur de la sécurité est une question ouverte en Tunisie. Beaucoup de travail a été fait depuis 2010, mais manifestement, il reste encore beaucoup de travail à faire et notamment le président de la République lui-même, à la suite d'une manifestation le 1er septembre où les manifestants avaient été dispersés assez brutalement, avait lui-même souligné l'importance pour la police républicaine de revoir ses pratiques et de respecter le cadre de la loi sur la liberté des personnes, et notamment, en l'occurrence, dans le contexte précis, la liberté d'expression et de manifestation pacifique. Donc, ça veut dire qu'il y avait clairement une réalisation de la nécessité de continuer un travail de fond sur la réforme du secteur de la sécurité pour avoir une police beaucoup plus, ou en tout cas des services de sécurité intérieure, globalement beaucoup plus respectueux du cadre de la loi dans leurs interactions avec la population.
Et plus largement, vous vous préoccupez de ce que vous considérez comme l'étouffement de la dissidence en Tunisie, notamment par l'utilisation abusive de la législation antiterroriste et par le recours croissant à des tribunaux militaires pour juger les civils. Soyez beaucoup plus clair.
Le recours aux tribunaux militaires pour juger les civils n'est pas une pratique nouvelle. C'est quelque chose qui a déjà été répertorié et dénoncé par la société civile, notamment depuis la Révolution. Mais il se trouve que depuis les événements du 25 juillet, il y a eu un nombre de cas beaucoup plus important de personnes qui ont effectivement été déférées devant les tribunaux militaires, soit pour des allégations liées au terrorisme, soit éventuellement pour des faits de liberté d'expression, à l'occasion de critiques exprimées à l'encontre du chef de l'État et donc qui se trouve être le chef de l'armée. Donc par ce biais-là, on utilise la justice militaire pour juger des civils, ce qui est bien sûr très dommageable pour le bilan droits de l'homme de la Tunisie, puisque notamment dans le cadre de liberté d'expression, la législation est disponible pour juger les civils éventuellement s'il devait être avéré qu'ils ont commis des violations de la loi. D'ailleurs, à ce propos, nous avons déjà remarqué et discuté avec les autorités, ça a été aussi souligné par la société civile ou par les procédures spéciales, que le cadre de la loi doit continuer à faire l'objet de réformes pour mieux protéger la liberté d'expression en accord avec les standards internationaux applicables.
Dernière question, le président a suspendu le Parlement, comme vous l'avez dit, et a assumé toutes les fonctions exécutives le 25 juillet dernier. Et vous demandez aux autorités tunisiennes de poursuivre le dialogue avec votre bureau. Selon vous, quels sont les chantiers prioritaires sur les droits humains en Tunisie?
La réforme du secteur de la justice est bien sûr un chantier prioritaire, ainsi que je l'ai mentionné auparavant, celle du secteur de la sécurité. Néanmoins, ce genre de réforme se comprend difficilement sur la base d'un contexte, d'une législation d'exception, qui sont exactement ceux dans lesquels on se trouve actuellement. Et il est, je crois, bien compris que dans tout régime démocratique et qui fonctionne en accord avec l'État de droit, l'existence de trois pouvoirs indépendants et qui se nourrissent mutuellement, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire, sont une donnée essentielle. Et ce genre de réformes fondamentales qui normalement sont définies par une constitution doivent se passer dans un cadre démocratique avec des représentants élus qui peuvent contribuer au débat sur la base bien sûr aussi de l'expertise du secteur de la justice. Et donc il ne peut pas être concevable que ce genre de réformes sont entreprises uniquement par l'exécutif sur la base d'une législation d'exception. Nous appelons de nos voeux, bien sûr, une réforme du secteur de la justice, mais elle doit répondre à des paramètres minimum de consultation et de processus qui sont en accord avec les standards internationaux applicables dans ce domaine et auxquels, d'ailleurs, la Tunisie a souscrit, puisque la Tunisie est quand même l'un des pays qui a signé le plus de conventions, quasiment toutes les conventions internationales des droits de l'homme, sauf une. Et donc, il faut noter ça à son crédit. Maintenant, il est important de continuer à progresser dans leur mise en œuvre effective.